France Inter. Tapage, nom masculin, bruit excessif, boucan, vacarme. Le tapage, c'est le son qui trouble le voisinage, qui résonne dans la nuit, vous empêche de dormir. C'est le nom de votre nouveau rendez-vous musical sur France Inter. Jusqu'à 21h, on fait monter les décibels, on tend l'oreille à la nouvelle scène française. Et ce soir, un producteur de musique électronique qui fait dialoguer les instruments et les machines, il s'appelle Superpose. Et moi, c'est Camille Diao, bienvenue dans mes oreilles.
Tapage, Camille Diao sur France Inter.
Arrêtez tout, le nouvel album de Rosalia est enfin sorti. C'est pas du Vivaldi, c'est bien du Rosalia. Alors pour celles et ceux qui vivent dans une grotte, Rosalia, c'est une artiste espagnole, l'une des plus grandes pop stars du moment. Elle s'est fait connaître en réinventant le flamenco. Et elle fait donc son grand retour avec un projet orchestral dans lequel elle convoque aussi bien la musique baroque que l'opéra allemand. Et elle s'essaie pour la toute première fois au chant lyrique. La proposition est radicale. Rosalia dit qu'elle prend ses fans au sérieux, qu'elle leur propose une pop exigeante. Et ça marche, l'engouement est mondial, la presse unanime, sauf quelques puristes qui frôlent la syncope.
The new Rosalia single sucks.
Lui, c'est le critique anglais Hugh Morris. Il reproche à Rosalia de saccager la musique classique, de la simplifier, de la caricaturer. Et il a même cette expression
« New musical kitsch ».
Nouveau kitsch musical. En fait, ce qui se rejoue là, c'est l'éternelle opposition entre musique savante et musique populaire. Serge Gainsbourg, par exemple, traçait une ligne hermétique entre d'un côté la musique classique, un art majeur, et de l'autre la chanson qu'il qualifiait ainsi.
Oui, c'est mineur. C'est mineur.
Mais non, il n'y a rien de mineur. Être...
Tu n'as pas besoin d'initiation pour la chanson. Oh. Tu as besoin d'initiation pour les arts majeurs.
Pourtant, Gainsbourg lui-même n'a cessé de créer des ponts entre les deux registres. Ça, c'est Initials Bibi, qui est directement inspiré d'une symphonie d'Anton Dvorak. Et Gainsbourg est loin d'être le seul. Prenez le rappeur new-yorkais Nas. Vous avez peut-être reconnu dans ce piano la lettre à Élise de Beethoven. NTM a fait la même chose avec un prélude de Chopin.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs.
Qui a fini remixé façon techno-hardcore. Alors tout ça, c'est du sample, c'est-à-dire qu'on pioche directement dans un morceau classique existant, mais il y a d'autres approches. Dans son album Contrepoint, par exemple, Nicolas Godin, la moitié du groupe R, a préféré se livrer à une sorte de relecture moderne des partitions de Bach. Quant au Canadien Chili Gonzalez, collaborateur des Daft Punk, de Philippe Catherine ou encore de Théodora, il a composé un album entier pour piano et quatuor de cordes. Cet album, il l'a appelé Chambers, en clin d'œil à la musique de chambre. Bref, il y a mille autres exemples qui montrent à quel point la frontière entre musique savante et musique populaire est bien plus floue qu'on ne le pense. Les ponts ont toujours existé, et dans les deux sens d'ailleurs. Cette messe qui commence derrière moi, par exemple, et qui date probablement du 15e siècle, L'homme armé, en fait c'est une musique sacrée qui reprend une mélodie populaire existante. Donc finalement je vois mal ce qu'on peut reprocher à Rosalia, d'autant plus qu'elle ne prétend pas faire de la musique classique, elle s'en inspire pour en faire de la pop. Et au passage, elle contribue à dépoussiérer l'image de la musique savante, à susciter l'intérêt du grand public. Alors moi, je prends les paris. Je pense que dans la foulée du triomphe de Luxe, c'est le nom de l'album de Rosalia, on va voir vite un pic de stream pour Vivaldi. Et avant de parler de tout ça avec mon invité Superpose, qui lui aussi a travaillé avec des musiciens classiques, qui s'est intéressé notamment aux instruments baroques, voici une Française qui, comme Rosalia, a fait appel à un orchestre symphonique pour la réédition de son album. C'est Zao de Sagazan, Est-ce que tu vas bien, en version orchestrale sur France Inter.
Je ne sais plus qui j'aime, si c'est toi ou ton souvenir, j'ai tendance à ne retenir que le bon côté des choses. Dis-moi, elles étaient belles, ces choses-là. Suis-je la seule à penser à ça? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore.
Zao de Sagazan et son orchestre symphonique pour ouvrir cette heure de tapage en compagnie de Superpose. Bonsoir Superpose.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Tapage.
Merci beaucoup.
Alors, est-ce que ça te parle, ce travail que fait Rosalia, ou que peut faire aussi d'une autre façon une Zao de Sagazan, de la pop matinée de musique classique avec les instruments de l'orchestre symphonique?
Oui, bah, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai beaucoup écouté des artistes comme Ryuichi Sakamoto, Brian Eno, tous ces artistes qui ont fait, en fait, des ponts déjà depuis longtemps entre la musique savante et la musique populaire, qui ont permis d'ouvrir des canaux de transmission, de communication et d'échange entre des musiques qui sont cloisonnées sociologiquement. Mm-hmm. Je m'étonne un peu d'entendre le discours sur Rosalia, là, du critique du Guardian.
Ouais, ce critique anglais, il était très énervé. À vrai dire, c'est pas non plus représentatif de la critique musicale, qui a plutôt réservé un bon accueil à cet album de Rosalia. Alors, je vais te présenter un peu plus largement dans un instant, mais toi, tu fais de la musique électronique. Tu as aussi une formation classique. Tu as fait le conservatoire,
oui.
En percussionniste, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et sur ton précédent album, Nova Cardinal, tu as mobilisé des instruments anciens, des instruments baroques. C'est quoi cet instrument-là?
C'est de la viole de gambe. C'est magnifique, hein? Moi, quand j'entends ça, j'entends des sons, j'entends des timbres. Je vois pas un musicien en perruque dans un salon à Versailles. Je pense qu'il y a que les musiciens et musiciennes, au bout d'un moment, en fait, plonger 8 heures de son par jour depuis des années, on finit par entendre des sons, des timbres, et c'est ça qui nous apparaît en premier. Donc moi, quand je choisis de travailler avec des flûtes à bec anciennes, des violes de gambe sur l'album que j'ai sorti il y a 3 ans, Nova Cardinal, je le fais d'abord par un souci d'association de timbres, mmh, avant de faire une association d'époque et de culture.
D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, peut-être que les auditeurs et auditrices l'ont entendu, mais c'est que dans ce morceau-là, on entend même le bruit de l'archer avec lequel on joue de cette viole de gambe, et finalement, ça rajoute encore une couche de texture supplémentaire, ça fait presque partie de la musique. Et d'ailleurs, même le titre de ce morceau, qui s'appelle Coda, il est tiré du vocabulaire, du solfège et de la musique classique.
Oui, oui, tout à fait, c'est un retour de thème, c'est un thème qu'on entend au tout début de l'album, donc oui, c'est En effet, ça emprunte à cette grammaire de la musique classique.
Libération, parler à ton sujet de musique néoclassique. Est-ce que ça te parle comme qualificatif ?
Moi, j'ai l'impression de faire une musique à l'intersection de plein d'autres musiques, et de juxtaposer, on va dire, des musiques, de prendre des choses typiques de la musique électronique, des choses typiques d'ensemble à cordes, et de les associer. Il y a des musiciens électroniques qui sont dans une démarche d'expérimentation, d'avant-garde. Moi, je suis dans une démarche d'utiliser des sortes de valeurs sûres. la boîte à rythme, la TR-909, utilisée depuis des dizaines d'années, le quatuor à cordes. J'utilise des basiques qui ont fait leurs preuves et je les associe. Et donc, je n'ai pas la prétention de... Parce que le néoclassique, j'ai l'impression que c'est l'idée de s'inscrire dans le prolongement de la musique classique. Moi, je n'ai pas le sentiment de m'inscrire dans le prolongement de la musique classique.
Alors Superpose, je te présente plus longuement quand même. Donc musicien, compositeur, producteur originaire de Caen. Tu t'es fait connaître assez jeune, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec un son assez distinctif. Donc c'est de la musique électronique, mais c'est pas de la musique de club. C'est pas fait pour nous faire danser. On qualifie souvent ton son de contemplatif, de cinématographique. Tu composes aussi à côté pour d'autres artistes, pour le cinéma, pour le théâtre. Et aujourd'hui, à 33 ans, tu viens de sortir ton 4e album. Il s'appelle Siècle et il va nous occuper jusqu'à 21h. Donc ce que je te propose, c'est de t'installer tout de suite au piano et aux machines. On va ouvrir cette émission par le morceau qui donne son nom à l'album, Siècle. Donc c'est Superpose en live directement dans vos oreilles. Superpose en live spécialement pour ta page. Le morceau s'appelle Siècle. On est ensemble jusqu'à 21h.
Ta page. Camille Diao. Sur France Inter.
Merci beaucoup, Gabriel. Oui, je t'appelle Gabriel.
Gabriel, c'est très bien.
Gabriel, c'est très bien. Alors, je reviendrai quand même sur Superpose régulièrement, histoire de pas trop perdre celles et ceux qui nous écoutent. On parlait de ton album précédent, Nova Cardinal, dans lequel t'as cherché une sorte de symbiose entre les instruments anciens et les sonorités électroniques. On parlait tout à l'heure de rapport entre les timbres. Pour ce nouvel album, tu continues à mélanger les deux, mais t'as changé d'approche. Et ce que t'expliques, c'est que cette fois-ci, t'as cherché au contraire une sorte de tension, comme un affrontement entre les instruments et les machines. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
L'idée du conflit entre les différentes sources, elle est venue déjà, comme je disais tout à l'heure, de l'idée de juxtaposer des instruments qui, a priori, n'auraient rien à voir et les contextualiser, leur offrir un autre contexte. Et ce qui a initié ça, c'est une petite phrase de Robert Bresson qui dit, je crois, peut-être à un ou deux mots près, que créer n'est pas inventer des personnes ou des choses, c'est de proposer entre des personnes ou des choses qui existent et telles qu'elles existent, des rapports nouveaux. Et cette phrase de Robert Bresson, je la trouve très belle, et elle a un peu initié l'album. Donc, quel rapport nouveau je peux essayer de créer entre des choses qui existent telles qu'elles existent? Et donc, cet album est fait de rythmiques électroniques inspirées par des choses vraiment, je dirais, typiquement électroniques, qui ne cherchent pas à être hybrides, qui sont des purs sons de boîte à rythme.
Ouais.
Des ensembles à cordes qui sont des ensembles préexistants, donc un quatuor, un ensemble de six violons, des choses qui ont été formées par un arrangeur dont c'est le métier de faire ça. Du piano qui est du piano droit dans mon studio de pop, pour le dire grossièrement, parce que moi je suis un mauvais pianiste, je compose au piano, mais je suis un mauvais pianiste. Enfin voilà, et donc de juxtaposer et d'essayer de créer des rapports. Voilà.
Entre ces trois mondes, et alors tu citais Robert Bresson, qui est un critique de cinéma.
Un cinéaste.
Oh là, je suis vraiment mauvaise en cinéma, heureusement j'ai une émission de musique. Mais tu cites aussi, parmi ceux qui t'ont inspiré cette idée-là, un album de musique brésilienne. C'est Nana Vasconcelos, donc, qui est un percussionniste brésilien. L'instrument qu'on entendait au tout début, c'est du berimbau, c'est l'instrument de la capoeira, notamment. Et alors, raconte-nous là ce qui vient de se passer.
Donc ça, c'est un disque sorti, je crois, en 1980 chez ECM. Et donc c'est exactement l'extrait qui m'a inspiré au début de la composition de mon disque. C'est qu'il y a 3-4 minutes de solo de berimbau. Et puis il y a un ensemble à cordes qui rentre, qui chasse Nana Vasconcelos et qui joue une musique qui évoque une sorte de musique européenne du XXe siècle, donc à rien à voir. Et Nana Vasconcelos ne cherche pas à arranger autour de son berimbau, mais se laisse chasser et reprend la place après. Peut-être que c'est un dialogue, moi j'ai vu ça comme un conflit tellement ça me paraissait être des univers opposés.
On va écouter ce que cette dialectique-là, elle donne en version superpose. Ce morceau, il s'appelle Raven 1321. Et en l'écoutant, en fait, moi, ça m'a rappelé ce que j'ai lu à propos d'encore un autre de tes albums, For the Living, que tu as composé dans une maison dans laquelle il y avait une pièce dédiée aux machines, à l'électronique, et une autre pièce dédiée aux instruments. Je trouve ça assez passionnant. Ça veut dire que pour toi, l'environnement dans lequel tu composes, ça compte, et que cette opposition, tu la mets en place même dans l'espace dans lequel tu es.
Oui, absolument. J'ai envie de la vivre. Je fais de la musique instrumentale et aujourd'hui, elle devient la musique instrumentale. C'est avec voilà les playlists, le streaming, l'IA, tous ces sujets-là, une musique de mood. Et moi, je m'intéresse à l'humanité qui réside dans cette musique-là. Et donc, j'essaie de mettre en place des dispositifs pour travailler, qui sont des dispositifs profondément humains. Donc déjà, en étant vraiment dans des espaces séparés, prenant conscience pleinement des éléments et en les considérant pas juste comme des artefacts, justement culturels, un bout de musique classique et un bout de... Non, c'est une pièce avec tel instrument, une pièce avec tel instrument, un rapport au temps. Enfin, c'est une façon d'essayer d'être humain au sein de cette musique instrumentale.
Et tu faisais référence à l'IA. Alors c'est intéressant parce que cet album, il s'appelle Siècle, et moi je me suis demandé en l'écoutant si cette tension que tu explores en musique, elle n'avait pas aussi à voir avec une sorte de tension qui traverse notre époque, donc notre siècle. Parce qu'on vit tous aujourd'hui un peu à cheval entre des mondes virtuels, numériques et le monde réel. Moi, en écoutant ton album, j'ai l'impression que tu nous parlais de ça aussi, de comment est-ce qu'on navigue entre ces mondes-là.
Oui, je pense, en tout cas, comme j'écris pas de texte et que j'ai pas un discours, on va dire, qui est clair, j'ai un discours qui est à chercher dans le geste, parce que je pense que, comme tout artiste, j'ai un pied à côté du monde et un pied dans le monde, et donc je pense que forcément, c'est toujours un miroir de l'époque. Moi, derrière le mot siècle, c'est pas mon discours, je dis pas « regardez, j'ai mis en musique notre siècle », c'est pas ça. Mais forcément, je choisis pas les mots innocemment, surtout que j'écris pas de texte, donc le choix des mots est encore plus... donc oui, je pense que c'est un miroir. C'est une musique dans laquelle il faut se plonger, un peu volontairement, comme elle a pas de texte, qu'elle vient pas nous dire frontalement quelque chose, et que c'est pas une musique de danse.
Oui, c'est aussi un album qu'on écoute, qu'on réécoute. C'est un album qui prend le temps de s'ouvrir, je dirais ça comme ça.
Ouais, bah j'espère.
tout à l'heure, tu nous parlais des boîtes à rythme et de la TR-909. Là, pour cet album-là, le point de départ avant les mélodies, c'est le rythme, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, raconte-nous une boîte à rythme, qu'est-ce que c'est déjà ? Parce que peut-être que certaines de ceux qui nous écoutent ne sont pas familiers avec ça.
C'est une machine qui sert à simuler le son d'une batterie à l'origine. La TR-909, c'est une boîte à rythme culte qui a été entendue dans beaucoup, beaucoup de disques, et notamment des disques de club. Et donc, je m'intéresse à, en utilisant cette machine, à un petit peu la déplacer.
On l'entend là, ouais. derrière nous.
Ouais, voilà. Avec des sons très, très typés. Et donc, plutôt que d'aller chercher à fabriquer des nouveaux sons, je sais pas, c'est un jean Levi's, quoi. C'est un t-shirt blanc, la TR-909.
C'est un basique.
C'est un basique.
On est familier.
Qui sonne bien et qui, oui, voilà, exactement, qui est familier. C'est pour ça que j'adore.
On sait où on est. Et alors, je crois que l'homme qui t'a prêté cette boîte à rythme, c'est un certain Étienne de Crécy, donc une figure de la French Touch. Étienne avait un petit message à te laisser ce soir, Superpause.
Salut Gabriel, c'est Étienne de Crécy. J'espère que tout se passe bien pour toi. Bravo encore pour la sortie de ton album. On a un vieil ami en commun qui a un message à te faire passer.
Ah oui. J'adore. C'est génial. Très drôle.
Voilà, je sais que tu comprends son langage et que tu as compris ce qu'il disait. Je t'embrasse bien fort. À bientôt, j'espère.
Alors, traduis-nous.
Ça me fait trop plaisir, donc surprise, j'adore. Étienne de Crécy m'a prêté plusieurs machines au début de l'enregistrement de cet album. Et là, il vient de jouer sur une petite machine qui est donc une machine qui simule le son de grosses caisses de la TR-909, mais qui est une machine à part, avec plein d'effets de modulation. C'est une machine assez unique, je connais personne d'autre que lui qui a ça. J'avais pas prévu, en fait, je suis allé à son studio, lui demander la TR-909, il m'a prêté ça en plus. Et en fait, je m'en suis servi sur tout l'album. Et j'ai fait tous les sons de kick avec et la vraie TR et cette machine-là. Qui est une sorte de machine, je crois, russe, un peu folle, rose, qui est... Donc c'est très, très drôle, mais je reconnais, j'adore.
C'est le vieux pote en commun. Superpause, tu es venu avec ton outil de travail, c'est ton ordinateur, et ce soir, tu as accepté de nous ouvrir un peu la boîte noire, et de nous faire entendre, piste par piste, comment tu t'y es pris pour composer Siècle. Je te laisse t'installer, et tu vas peut-être nous raconter déjà par où ça commence.
Alors déjà, ce qui peut être drôle, c'est comme on vient d'entendre... Étienne de Crécy, je pense que là, j'ai cette fameuse machine-là. Donc ça, c'est un extrait de Statue, qui est le morceau qui ouvre le disque. Et je vais mettre les pistes en solo. Donc là, le kick. Ça, c'est sa machine. On reconnaît l'espèce de souffle, là.
On reconnaît le vieux pote.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est la machine de Étienne de Crécy. Et si je mets les... Voilà, la rythmique en solo, par exemple. C'est c'est une rythmique très droite, très franche et un peu dure. Et avec la basse, c'est pas très accueillant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu aller chercher justement dans la musique électronique, c'est la structure de ce qui se passe en bas. Donc les batteries et la basse, le socle. Par-dessus lequel j'ajoute en fait des éléments mélodiques et tout le monde acoustique. Là, c'est que des cordes et du piano. Et ça, c'est tout ce qui se passe au-dessus. Et c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus doux, beaucoup plus joyeux.
Et donc finalement, ça dessine comme une sorte de paysage. On a le sol, presque les bas-fonds, et on lève les yeux, et on a ce monde plus aérien qui est amené par les instruments.
Exactement. C'est ce rapport-là que j'ai essayé de faire. Donc il y a des moments où les parties se chassent les unes les autres, d'autres où elles vivent ensemble, mais dans un rapport qui est pas mélangé, qui est vraiment une sorte de monde en dessous des nuages et au-dessus des nuages. Il y a un truc un peu comme ça dans l'album. Y a aussi une... Quand je me mets à faire un disque, je ne me mets pas à faire, je ne sais pas moi, 20 ou 25 morceaux et choisir les 10 meilleurs. Je commence à faire un album. Et donc là, l'album fait 8 titres. Il n'existe pas sur un disque dur ou quoi, des titres pas sortis. Ou, voilà. Et donc, je compose l'album comme un tout, dans une grande session, comme si c'était un grand morceau. Et ensuite, je viens le séparer. Mais pour semer des indices de cette méthode de travail, j'utilise des thèmes récurrents. Au début de l'émission, on a entendu Nova Cardinal, la coda, donc était un thème qui revenait. Là, sur cet album-là, j'ai fait un peu la même chose, avec un thème tout simple, qui est celui-ci. Sol, fa, sol, mi, fa, qu'on entend de façon très claire ici. Et il est caché à d'autres endroits de l'album. Le deuxième morceau, qui s'appelle Obsession, c'est un morceau avec beaucoup de cordes, mais sur le thème. Je vais mettre les cordes en solo, là, et on va entendre le thème qui va arriver. Il est juste ici. Et il est caché comme ça à plein d'endroits dans le disque. Donc quand on écoute tout, on le perçoit pas spontanément, on entend l'ensemble, la relation entre les instruments, voilà. Donc ça, c'est des indices que j'essaie de semer comme ça tout au long du travail pour dire que tout a été pensé ensemble et fait partie d'un tout qui n'est pas une sorte de compilation. Bon, ça, c'est ce que je me raconte, moi.
Non, mais ça s'entend. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque en préparant l'émission avec la réalisatrice de l'émission qui s'appelle Anaïs Reinhardt, on est un peu parti à la recherche dans ton album de ces motifs récurrents et on se disait, en écoutant l'album, on a cette intuition qu'il y a ces motifs qui reviennent et parfois on les trouvait, parfois on les trouvait moins, et en même temps on se rendait bien compte qu'il y avait une parenté mélodique, et donc ça m'intéresse de t'entendre dire que finalement c'est presque des indices que tu sèmes en les cachant. Ça explique pourquoi à la fois on le sentait et à la fois parfois on a eu un peu de mal à les trouver.
Ouais, bah c'est ça, c'est la sensation recherchée. Enfant et adolescent, j'ai aimé les jeux vidéo, l'heroic fantasy, les mondes ouverts en fait. J'ai aimé les mondes ouverts et les mondes avec des univers, du lore très, très puissant, très fort, et en faisant un album comme celui-ci, j'essaie de créer des mondes. Et j'ai vraiment des références, comme des références quoi, d'enfance presque, les livres dont vous êtes le héros, ouais, les jeux vidéo en monde ouvert. Enfin, c'est ces choses-là qui m'animent et qui me procurent de la joie dans le fait de faire une musique que je fais quand même assez sérieusement quand je la fais. Elle vient en fait d'un endroit de candeur et de joie qui est celui des mondes ouverts et des mondes à explorer. Donc tout est fait comme ça, et en effet les indices qui sont semés, les thèmes qui reviennent, les timbres qui communiquent, ça va dans ce sens-là.
Est-ce que tu as une dernière chose à nous faire écouter?
J'ai une façon aussi de travailler sur ce disque-là qui était... j'ai travaillé par fragments. C'est-à-dire j'ai enregistré des idées qui sont allées dans un grand dossier nommé collage. Et dans ce dossier de collage, au fur et à mesure que les structures des morceaux avançaient, donc je faisais les bases électroniques, elles étaient une sorte de socle voilà, solide, j'essayais de venir coller mes idées d'acoustique, de petits thèmes. Et il y a un morceau qui est en deux parties, qui s'appelle Gozelia, fragment. Et donc la deuxième partie, une sorte d'illustration, pareil, de cette écriture un peu fragmentée. Et je peux faire écouter un peu ces collages. Là, il y a vraiment des résidus de collage, des chutes. Et j'ai fait un bout de morceau avec que des chutes. Donc avec l'ensemble, on est emmené par la basse et la rythmique. Mais si on l'enlève, on a vraiment que des chutes.
Et ça veut dire que c'est des chutes de motifs que tu as utilisés autrement dans l'album, à d'autres moments ?
Pour certains, oui. Là, il y a des bouts de voix. Donc là, c'est la voix de Camille Delvecchio, qui est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Grand Blanc. Et c'est elle qui chante à certains moments sur l'album, avec une autre chanteuse qui s'appelle Indy. Donc, qui sont deux musiciennes avec qui je collabore depuis longtemps. Pour moi, ça participe à la création de cet univers qu'on peut aller explorer si on en a envie, et de mettre le casque un peu fort et de se concentrer sur une piste. Vraiment, en fait, c'est l'image des livres dont vous êtes le héros, c'est ce que j'ai trouvé le mieux, parce que c'est vraiment, on peut décider de suivre une piste qui n'est pas celle qu'on entend, évidemment. Voilà.
Alors viens me rejoindre, Gabriel, alias Superpose, parce que je voulais en parler de ces fragments.
Tapage. Camille Diao sur France Inter.
Alors, tu nous as déjà fait écouter certains de ces motifs, mais je voudrais te faire entendre ce qu'on a repéré avec la réalisatrice de l'émission, ces motifs qui se répètent jamais exactement à l'identique, mais qu'on retrouve d'un morceau à l'autre. On avait pris un extrait de Gozelia, justement. Qui ressemble beaucoup à ce petit morceau de Ravenne. Et qui nous a semblé pas si éloigné des cordes de Mu.
J'adore.
Alors, est-ce qu'on a suivi la bonne piste ?
Ouais, c'est... Oui, c'est une bonne piste. Mais j'adore parce que ce lien-là, il est correct. Mais c'est pas tout à fait celui auquel j'avais pensé. Mais en effet, il existe. Donc ça veut dire que même l'album, pour moi, est encore une source d'exploration.
Et ça veut dire que c'est vraiment le livre dont vous êtes le héros. Et là, c'était nous, les héroïnes, dans l'occurrence.
Ouais.
Parmi tes inspirations, on a parlé de Robert Bresson, on a parlé de Nana Vasconcelos. Et tu cites aussi un écrivain qui s'appelle Pascal Quignard. Et voici ce que Pascal Quignard dit de son processus créatif.
Les romans ont une caractéristique, c'est qu'ils arrivent entiers dans la tête. Je sais qu'il faut que je les écrive lorsqu'ils résistent à l'oubli, lorsqu'ils restent dans ma mémoire. Et dans ce cas-là, je sais tout, du début jusqu'à la fin, je n'ai plus qu'à l'écrire. Mais c'est assez fastidieux à écrire, le premier jet. Et puis ensuite, pour moi, c'est le plaisir infini de reprendre, de reprendre, de reprendre, de réécrire. Voilà ma vie.
Voilà, il dit que les romans lui arrivent tout entiers dans la tête et qu'ensuite il lui reste à les écrire et que c'est un travail long et fastidieux. Et finalement, j'ai l'impression de reconnaître exactement ce que tu nous as expliqué là-bas. T'as un monde et puis petit à petit, par petits morceaux, tu le composes.
Oui, et puis ça me fait aussi penser à une méthode que j'ai pour savoir si un morceau est fini ou non. C'est quand il me revient comme quelque chose qui préexiste. Et donc moi, oui, de toute façon, j'adore j'adore cet écrivain.
Et quand tu dis qu'il préexiste, du coup, il préexiste où ? Quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un espèce d'espace flottant où toutes les musiques du monde existaient déjà et que tu recomposes. finalement, c'est ça, ou je te comprends de travers?
Non, j'ai pas de rapport mystique à, en tout cas, d'un endroit, voilà, mais ma façon de faire de la musique, je m'intéresse pas à une démarche expérimentale ou avant-gardiste ou qui cherche à, voilà, donc je vais de toute façon puiser dans des choses qui préexistent et j'essaie de les contextualiser, de créer une carte à partir de ces événements-là, d'utiliser des sortes d'archétypes et de les faire exister ensemble, en fait, comme dans toutes les histoires que j'aime. Les histoires que j'aime sont faites d'archétypes, d'affrontements, d'amour, de trahison, de moments de souffle épique, de moments de calme, enfin voilà.
Tout ça, est-ce que ça a aussi à voir avec le cinéma? Puisque je le disais en te présentant tout à l'heure, tu fais aussi un travail sur des musiques de films. Je crois que le dernier film en date, c'est Les Derniers Hommes de David Holofen. Je le prononce peut-être un peu mal, mais travailler comme ça de façon très narrative sur un film, j'imagine que ça infuse aussi ce que tu fais quand tu fabriques tes albums par la suite.
Oui, évidemment, mais je me sens plus proche, c'est un peu étonnant, mais en fait je me sens plus proche de la littérature que du cinéma. Je fais de la musique pour le cinéma, mais je suis au service d'un monde d'images quand je fais de la musique pour le cinéma. Et le monde d'images, c'est le monde qui a gagné aujourd'hui, qui est celui dans lequel on vit. Et en fait, moi qui fais et de la musique, et en plus de la musique instrumentale, en fait je me sens plus proche quand même d'univers qui sont générés dans notre imaginaire et qui ne sont pas présentés de façon visible. Intimement, je crois que je me sens plus proche en fait d'une histoire que je lis que d'une histoire que je vois au cinéma quand je fais de la musique.
Super pause, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, et je disais tout à l'heure en te présentant que tu ne fais pas de la musique de club, et pourtant... Il y a quelques années, tu as fait un projet à quatre mains. C'était en 2019 avec un musicien très singulier qui s'appelle Jacques. Jacques, il s'est fait connaître en composant de la musique avec des objets du quotidien. Je l'ai beaucoup écouté, ce projet, à l'époque, donc j'avais envie de le réécouter. Le titre s'appelle Natural Takeover. C'est Superpose et Jacques sur France Inter. Superpose est l'invité de ta page jusqu'à 21h. Et sur ce titre, qui date de 2019, c'est un peu une autre facette de toi qui se donne à voir, puisqu'il y a toujours ce côté un peu planant, narratif, mais c'est aussi un titre qui est assez dansant, pour le coup, qui est aussi taillé pour le club.
Ouais, alors ça, c'est un titre... donc c'est issu d'un EP qu'on avait fait avec Jacques, où on est parti d'une sorte de même banque de sons, mais qu'on avait créé nous-mêmes, qui est donc sur le premier morceau, qui est un long morceau, très progressif, ambiant et tout ça. Donc on a fait vraiment à deux. On s'est réunis sur des concepts et des idées. Donc là, c'est dansant, mais ça aurait pu une palette, ça aurait pu... En fait, c'est presque plus les sons qu'on a associés, voilà. Mais oui, dans ma discographie, je travaille pas tout à fait ça. Mais à côté, c'est une musique que j'adore.
En tout cas, je vous invite à aller écouter ce titre en entier, parce qu'il dure 8 minutes, donc on ne peut pas l'écouter en entier. Là, il continue un peu derrière moi, mais ça ne vous permet pas d'entendre tous ces détails et tous ces petits sons qui sont utilisés dans le morceau. En tout cas, si je voulais l'écouter, c'est justement parce qu'on est samedi soir, et traditionnellement, dans cette dernière ligne droite de l'émission, on parle un petit peu de fête. Alors, à quoi ils ressemblent tes samedis soirs, Gabriel, quand t'es pas ici dans le studio de France Inter ?
Très honnêtement, à quoi ils ressemblent mes samedis soirs ? Je pense, comme tout néo-trentenaire, de temps en temps je sors, mais surtout je lis, je bois une tisane. Non, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir Jacques Green et No Such Thing à Essaim, à Paris. Donc, c'était quand même une sortie.
Essaim, qui est un petit club assez pointu et qui est consacré aux musiques électroniques, qui a ouvert il y a quelques années à Paris.
Voilà.
Donc ça t'arrive quand même de mettre les pieds en club sans y jouer. Dans une très vieille interview, tu racontais que la première fois où tu as mis les pieds dans un club, c'était parce qu'on t'avait invité à faire un DJ set, mais que tu ne t'étais jamais intéressé à ces espaces de fête-là avant.
Non, pas du tout. J'ai pas du tout cette culture-là. Moi, j'ai découvert la musique électronique avec des musiques électroniques calmes, enfin avec Warp, quoi, avec Boards of Canada, avec Aphex Twin, avec tous ces artistes-là. C'est par là que je suis rentré dans la musique électronique et pas par la musique de club. Donc j'ai découvert en fait très tard.
Est-ce que tu as pris goût depuis ?
Oui.
Oui ?
Ouais, beaucoup. Ouais.
C'est quoi une bonne fête selon Superpose ?
C'est une fête avec du très bon son, de la joie, des sourires, de la danse.
T'aimes bien danser ?
Ouais, j'aime bien danser. Je sais que ça s'entend pas dans ma musique, mais j'aime bien danser.
Superpose, avant de nous dire au revoir, tu es venu justement avec un morceau pour nous mettre en jambes, pour nous faire danser. Et chose un petit peu surprenante pour toi qui travaille tant les harmonies, les mélodies, t'as choisi un titre intégralement percussif. Est-ce que tu peux nous le présenter, ce morceau ?
Ouais, c'est Clap Trap de Joe. Moi, je suis percussionniste, j'ai une formation de percussionniste. Et je pense que j'ai un nœud à cet endroit-là, de finalement d'avoir un peu abandonné cette pratique pour une pratique beaucoup plus mélodique et harmonique. Et donc ça me fait un effet super fort. En fait, je pense que je rêve de faire de la musique comme ça.
Bah, prochain album, peut-être.
Ouais, peut-être.
Et c'est qui ce Joe ? Parce que j'ai essayé de trouver des informations sur Internet, et à part qu'il vient de Londres, j'en ai pas trouvé beaucoup.
Alors, j'en connais pas beaucoup plus sur lui, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois savoir que ça, c'est un disque qui est sorti chez SL Audio, et donc c'est toute une scène, j'ai pas envie de dire de bêtises, une sorte de mélange entre dubstep, UK, two-step, UK garage, enfin toute cette scène underground londonienne.
De sous-genre de musique électronique anglaise.
Voilà. Et lui, il appartient à ça. Moi, c'est des sons que j'ai découverts beaucoup grâce à Gilles Peterson.
Grand curateur de musique à la fois anglaise, musique électronique, mais aussi beaucoup de jazz chez Gilles Peterson, que je vous invite à suivre aussi également. Donc ça, c'est grâce à
oui,
Gilles.
Oui, je pense que, en tout cas, toutes ces musiques-là, je les ai découvertes grâce à ses DJ sets, ses émissions, son festival. Voilà. Et j'adore parce que c'est vraiment la percussion, et je crois que c'est, mine de rien, l'origine de ma pratique.
Eh bien, je vous invite à monter le son, à vous lever si c'est possible, si vous n'êtes pas en train de nous écouter dans une voiture, et à vous préparer à danser. C'est Joe Clap Trap, le choix de Superpose pour votre samedi soir. Tapage avec les musiciens Superpose. Quel final ! C'était le titre que Superpose a choisi pour votre samedi soir. Quel final, je disais.
Ouais, bah c'est, j'adore entendre ça sur France Inter. Ça me fait très plaisir. Clap Trap de Joe, j'ai tellement écouté ce morceau.
Merci beaucoup, Gabriel, pour la découverte. Ton album, il s'appelle Siècle. Il est dispo partout. Tu seras en concert à la salle Pleyel à Paris le 21 mars prochain. Les billets sont déjà disponibles. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter, j'allais dire qu'à te souhaiter une longue vie. Oui, je te souhaite une longue vie, mais longue vie à Siècle également.
Réciproquement.
Et merci beaucoup d'être venu faire un petit peu de tapage avec moi.
Merci, merci pour l'invitation.
Allez, un dernier morceau pour la route. J'imagine que tu connais Georgia Smith, Gabriel.
Bien sûr, bien sûr.
On parlait de Londres, c'est une chanteuse de soul britannique qui s'aventure parfois du côté de la musique électronique, ces sous-genres justement dont on parlait, dont le UK Garage, et c'est le cas sur ce titre qui s'appelle With You, Georgia Smith, sur Inter. Georgia Smith, With You, pour conclure cette heure de tapage. Un grand merci à toute l'équipe. Alexis Goyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Anaïs Reynard qui la réalise. À la technique ce soir, c'était Jérôme Ragano et Julien Thévenot. Juste après le journal, vous retrouverez Yasmine Hamdan, musicienne libanaise qui était mon invitée la semaine dernière et qui va prendre le contrôle des ondes pendant une heure. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour encore plus de tapage.